Vous écoutez, on lit pour vous.
Déconstruire le mythe des aînés technophobes. Un texte de Zachary Goudreau paru le 7 mars 2026 dans Le Devoir. Technophobes, les aînés? Pas du tout, répliquent certains d'entre eux et des experts qui abordent la vaste utilisation des écrans par les personnes de l'âge d'or, qui s'en servent notamment pour s'informer, socialiser et demeurer autonome plus longtemps. Tour d'horizon. Bien des jeunes envieraient la maîtrise des nouvelles technologies de Jean-François Vigneault, de Claude Laverdure et de Lise Brousseau, rencontrés tous les trois par Le Devoir récemment dans une résidence pour personnes âgées du groupe Maurice à Laval. L'autre jour, on avait un rapport de médecin. On n'y comprenait absolument rien. On a pris le rapport, on l'a mis dans un outil d'intelligence artificielle, IA, puis on a dit « Explique-nous ce que ça veut dire ». Et il nous a donné une explication limpide et très, très intéressante, raconte M. Laverdure, qui utilise aussi l'IA pour générer des recettes et des images. Il y a quand même des gens qui se débrouillent très bien malgré l'âge. C'est surprenant, lance pour sa part M. Vigneault, lui-même âgé de 80 ans. En plus de toucher lui aussi à cette nouvelle technologie pour le fun, le retraité utilise également le programme Excel sur son ordinateur pour classer ses affaires, y compris ses reçus de pharmacie. « Ça aide à ma mémoire », estime celui qui utilise aussi les écrans pour jouer à des jeux en ligne, seul ou avec des amis, eux aussi connectés. Au point où, des fois, ma blonde, elle m'appelle un ado, lance-t-il en riant. Même après la pandémie, on a continué à faire des soupers virtuels et à jouer en ligne entre amis, dit Lise Brousseau, qui consulte par ailleurs Internet régulièrement pour s'informer sur toutes sortes de sujets. J'apprends énormément, se réjouit la directrice d'école à la retraite. Elle organise par ailleurs des ateliers sur la logique et le raisonnement, baptisés « Cerveau en action », dont le contenu est créé par le biais de logiciels développés par son conjoint, Claude Laverdure. « On a une banque de 155 activités », glisse-t-elle fièrement. Pas des cas uniques. Ces trois aînés sont loin d'être les seuls à avoir apprivoisé les nouvelles technologies. À l'échelle de la province, le taux d'adultes de 65 ans et plus disposant d'une connexion à Internet atteint 85 % selon un rapport de l'Académie de la transformation numérique ATN de l'Université Laval, publié l'an dernier. En 2015, ce pourcentage s'élevait à 67 %. Ce sont par ailleurs 97 % des utilisateurs d'Internet dans cette tranche d'âge qui mentionnent l'utiliser pour communiquer avec leurs proches. Cependant, contrairement aux jeunes, ils n'ont pas recours en priorité aux réseaux sociaux pour ce faire. C'est plutôt le bon vieux courrier électronique qui a la cote. Une majorité de ces personnes-là vont passer d'une à deux heures par jour sur les réseaux sociaux, ce qui est relativement peu comparativement aux autres tranches d'âge. Elles ne vont pas regarder, par exemple, de courtes vidéos, explique Astrid Alemao, agente de recherche à l'ATN. Cela n'empêche pas les aînés de passer beaucoup de temps devant l'écran de leur téléphone intelligent, de leur tablette, de leur ordinateur ou de leur télévision, entre autres. En fait, après les 18 à 24 ans, ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus qui sont les plus susceptibles dans la métropole du Québec de consulter de façon intensive les écrans, c'est-à-dire pendant plus de 4 heures par jour dans leur temps libre, montre un récent rapport de la Direction régionale de la santé publique DRSP de Montréal. Claude Laverdure indique pour sa part qu'il peut passer jusqu'à 6 heures devant les écrans pendant une journée. Quand on est dans un projet très demandant, puis qu'on a hâte de voir le résultat, je peux programmer pendant 4 heures en ligne, indique celui qui a souvent recours à ses connaissances technologiques pour contribuer à l'organisation d'activités au sein de sa résidence pour aînés. Jean-François Vigneault note de son côté que des personnes âgées qui n'avaient pas beaucoup touché à la technologie lorsqu'elles étaient sur le marché du travail se sont achetées une tablette une fois à la retraite, notamment pour jouer à des jeux et rester en contact avec leurs proches. Une manière pour plusieurs de briser la solitude, constate-t-il. Autonome plus longtemps. Les technologies numériques peuvent par ailleurs aider les aînés à rester autonomes plus longtemps, explique pour sa part la chercheuse principale au Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville, Julie Castonguay. Avec d'autres chercheurs, elle a réalisé en 2023 une étude sur le rôle que peuvent jouer les technologies du numérique pour améliorer l'accès des aînés à certains services essentiels. Des aînés ont alors été accompagnés dans l'utilisation de plateformes numériques, leur permettant de se faire livrer leur épicerie ou leurs médicaments. En théorie, ces outils offrent une option intéressante aux aînés pour qui sortir pendant une tempête de neige ou encore se rendre en voiture à l'épicerie devient de plus en plus difficile. Encore faut-il, cependant, qu'ils se sentent à l'aise d'utiliser ces ressources. On voyait que juste l'étape de la connexion à ces plateformes, c'était une difficulté. Et des fois, c'est parce qu'il y a un bouton qui n'est pas placé au bon endroit ou parce qu'il y a un champ texte qui est peut-être pour nous visible, mais qui l'est moins pour ces personnes-là, explique Mme Castonguay. En entrevue, elle relève ainsi l'importance non seulement de mieux faire connaître ces outils numériques aux personnes âgées et de leur apprendre à les utiliser, mais aussi d'adapter cette technologie à leurs besoins afin d'en faciliter l'utilisation. Je donne souvent l'exemple d'une personne qui a des tremblements. Alors que la zone de clic est super petite, c'est dur pour cette personne d'aller peser au bon endroit dans l'écran, poursuit la chercheuse. Des aînés à ne pas oublier. Astrid Alemao rappelle pour sa part que 15% des aînés au Québec n'ont toujours pas de connexion Internet à la maison. Il ne faut pas les oublier, relève l'agente de recherche à l'ATN, qui souligne l'importance que tous les services gouvernementaux demeurent accessibles d'une certaine façon hors du numérique, puisqu'une partie de la population québécoise ne sera probablement jamais connectée à Internet. Sinon, des aînés risquent d'écoper à cause de leur manque de connaissances du numérique, le recours à Internet rendant notamment l'achat de billets de spectacle et la prise de rendez-vous médicaux plus facile et rapide, note Julie Castonguay. Il y a des exemples comme ça où le numérique, si on n'accompagne pas bien les aînés dans l'utilisation des services et qu'on ne leur offre aucune autre possibilité, peut contribuer à mettre un frein à l'autonomie des gens, plutôt qu'à les aider, conclut Mme Castonguay. C'était « Déconstruire le mythe des aînés technophobes », un texte de Zachary Goudreau paru le 7 mars 2026 dans Le Devoir.
Le muscle, nouvel acteur de la fertilité. Un texte de Laurence Niozzi, paru le 8 janvier 2026 dans le magazine Québec Science. Et si nos muscles avaient leur mot à dire dans la reproduction? C'est la découverte inattendue d'une équipe de l'Université McGill qui bouscule 40 ans de certitude sur le fonctionnement de notre système reproducteur. Depuis les années 1980, la science pensait que notre fertilité dépendait uniquement de ce dialogue hormonal entre notre cerveau, une petite glande appelée hypophyse, et nos organes reproducteurs, nos gonades. Ce trio, appelé axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, orchestre la production d'hormones comme la FSH, hormone folliculo-stimulante, essentielle à la maturation des ovules et des spermatozoïdes. Mais la chercheuse Luisina Ongaro Gambino et son équipe ont découvert qu'un nouvel acteur s'invite dans cette conversation, les muscles. Leur étude sur des souris, publiée en janvier 2025 dans Science, révèle qu'une protéine produite par les muscles, la myostatine, connue pour limiter la croissance musculaire, stimule également la production de FSH par l'hypophyse. Située à la base du cerveau, cette glande, de la taille d'un pois, sécrète de nombreuses hormones. La nouveauté de notre travail est la découverte qu'une hormone produite par les muscles communique avec l'hypophyse et régule la reproduction. Avant cela, on ne savait pas que ces deux organes communiquaient entre eux, ni comment, explique Luisina Ongaro Gambino, autrice principale et associée de recherche au laboratoire d'endocrinologie de Daniel Bernard à l'Université McGill. Longtemps considéré comme un simple moteur mécanique, le muscle s'impose désormais comme un acteur endocrinien capable d'envoyer des signaux hormonaux qui influent sur la fertilité. Cette communication hormonale entre le muscle et l'hypophyse s'avère essentielle à la reproduction et à la fertilité, souligne la chercheuse. L'équipe de McGill veut maintenant vérifier si cette communication observée chez la souris existe aussi chez l'humain. Les scientifiques explorent notamment si des variations naturelles du niveau de myostatine pourraient contribuer à certains phénomènes cliniques, comme la puberté précoce ou retardée, l'absence de règles chez certaines athlètes ou des formes d'infertilité inexpliquées. Cette découverte fondamentale ouvre donc la voie à de nouvelles stratégies de traitement. En modulant la myostatine ou des protéines apparentées, on pourrait possiblement stimuler naturellement la production d'hormones reproductives sans recourir aux injections hormonales. Le blocage de la myostatine suscite aussi un intérêt croissant dans le traitement de l'obésité. Les agonistes du récepteur GLP-1, comme les fameux Ozempic ou Wegovy, favorisent la perte de poids, mais entraînent aussi une fonte musculaire. Pour contrer cet effet, des entreprises testent des inhibiteurs de myostatine censés préserver la masse musculaire. Les travaux de McGill montrent toutefois que cette approche pourrait avoir des effets inattendus sur la fertilité. Si la myostatine régule la FSH, la bloquer pourrait perturber la fonction reproductive, prévient la chercheuse. D'où la nécessité, selon elle, d'évaluer attentivement les effets hormonaux de ces nouvelles thérapies. C'était Le muscle, nouvel acteur de la fertilité. Un texte de Laurence Niozzi, paru le 8 janvier 2026 dans le magazine Québec Science.
Évaluez vos revenus de retraite en quelques clics. Un texte de Daniel Germain publié le 17 décembre 2025 dans Le Soleil. Passé la cinquantaine, certaines interrogations commencent à hanter nos pensées. À quel âge pourrais-je prendre ma retraite? Combien me faut-il épargner pour cesser de travailler dans 10 ans? Vaut-il la peine de conserver un petit boulot après 65 ans? Et bien sûr, la plus importante, y a-t-il une vie après la mort? Chacun a son idée là-dessus, bien que personne ne sache vraiment. Pour les autres questions, heureusement, vous avez accès à plusieurs outils en ligne qui permettent d'y voir plus clair. Le congé des fêtes est une belle occasion d'aller tester divers scénarios, question de vérifier si vous êtes sur la bonne voie. Premier arrêt, la nouvelle version de Simule Retraite. L'outil proposé par Retraite Québec n'avait pas reçu de véritable cure de jouvence depuis son implantation il y a plus de 20 ans. C'est maintenant chose faite. Simule Retraite vous permet d'évaluer vos revenus de retraite et d'estimer l'épargne nécessaire pour atteindre vos objectifs. Pour accéder à la calculatrice, vous devez d'abord vous connecter à Mon dossier de Retraite Québec par l'intermédiaire de ClickSécure ou le service d'authentification gouvernementale. Un lien vers l'outil se trouve sur la page d'entrée. Le principal avantage de Simule Retraite est qu'il considère vos cotisations au régime des rentes du Québec pour estimer les revenus que vous tirerez du régime, en écartant les périodes de faibles revenus. Pour les employés de l'État participant au REGOP et au RRPE, la plateforme intègre pour la première fois les informations des deux régimes de retraite de la fonction publique. Pour les autres Québécois, vous devez, le cas échéant, avoir sous la main le relevé le plus récent de votre fonds de pension et le solde à jour de vos différents comptes d'épargne retraite, CRI, REER, CELI, etc., pour entrer manuellement les données. Vous pouvez modifier plusieurs paramètres, notamment l'âge auquel vous demandez votre rente du RRQ et votre pension de la Sécurité de la vieillesse, PSV, la durée de la retraite, l'inflation prévue, l'augmentation salariale anticipée, le taux de rendement avant et durant la retraite. Vous êtes aussi invité à inscrire votre rémunération actuelle et à indiquer le taux de remplacement recherché une fois votre carrière terminée. 100%, 90%, 80%. Mise en garde. Vous pouvez facilement manipuler les paramètres de manière à enjoliver la réalité. Idéalement, vous devriez utiliser les normes d'hypothèse de l'Institut de planification financière. La démarche est plus simple et rapide sur cette nouvelle plateforme et les résultats sont nettement mieux présentés qu'avant. L'outil indiquera si vous êtes en voie d'atteindre votre objectif ou si vous le dépassez et il calculera l'épargne nécessaire pour combler un éventuel retard. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 simulations modifiables en tout temps. Tous les résultats actuels et futurs sont exprimés en dollars de 2025. Ce qui veut dire que les revenus de retraite affichés sont indexés selon le taux d'inflation que vous aurez spécifié. Simule Retraite est accessible à tout le monde, mais ses résultats seront plus probants si vous vous trouvez à 10 ou 15 ans de la retraite, lorsque votre situation est plus précise. Les autres peuvent utiliser un outil simplifié, Simule R, qui ne nécessite aucune connexion à Mon dossier. Les résultats seront toutefois moins détaillés, mais ça donne une idée. Par ailleurs, Retraite Québec a mis en ligne une série de vidéos de vulgarisation pour aider les adultes, du début à la fin de la carrière, à faire fructifier leur argent et à préparer leur retraite. À regarder entre les Dalton et les 12 travaux d'Astérix. Le meilleur. Deuxième arrêt. Combien conserverez-vous d'un revenu d'appoint à la retraite? Vous avez fait tous vos calculs et vous arrivez à la conclusion qu'il vous faudra occuper un boulot à temps partiel dans la première phase de votre retraite pour arriver. Vous vous demandez naturellement si ça vaut la peine, craignant peut-être de payer trop d'impôts ou de perdre d'autres revenus en provenance de programmes sociaux fiscaux comme le supplémentaire de revenus garantis, SRG. Le ministre des Finances du Québec a mis en ligne une calculatrice qui ne sert qu'à ça. Évaluez la portion du salaire qui reste dans vos poches lorsque vous travaillez à la retraite. L'interface est hyper simple. Il suffit d'indiquer si vous êtes seul ou en couple et d'inscrire vos revenus des diverses sources. Travail, RPA, REER, RRQ et bingo! Où se trouve le seuil à partir duquel ça ne vaut plus la peine de s'acharner à l'ouvrage? C'est propre à chacun. Et c'est souvent une question de moyens. Troisième arrêt. Connaissez-vous votre TEMI? TEMI pour taux effectif marginal d'imposition. Il comprend l'impôt, les cotisations sociales et les pertes de programmes sociaux-fiscaux, allocations pour enfants, crédits de solidarité, crédits TPS, SRG, etc., pour chaque dollar supplémentaire gagné. Vous seriez étonné de constater comment il ne reste plus grand-chose parfois. Le TEMI dépend d'un ensemble de facteurs comme sa situation familiale, le revenu du ménage, son âge, etc. Pour connaître votre taux d'imposition réel, vous devez vous rabattre sur l'une des multiples courbes de Claude Laferrière, rebaptisée « courbe du CQFF » pour Centre québécois de formation en fiscalité. Les courbes en question se limitent à des cas types, mais depuis quelques semaines, le CQFF propose en ligne un outil qui permet d'estimer son TEMI personnalisé. Pour Noël, sachez votre véritable facture fiscale. Quatrième arrêt, un calculateur du RRQ. Fruit du travail de la chaire en fiscalité et en finances publiques, CFFP, de l'Université de Sherbrooke, avec la collaboration de l'expert Daniel Laverdière, cet outil peut évaluer précisément les revenus tirés du régime de rente du Québec selon votre historique de cotisation et l'âge auquel vous commencez à retirer votre prestation. Vous devez, au préalable, télécharger votre relevé du RRQ à partir de mon dossier, le même endroit dont il est question plus haut. Le site de la CFFP offre aussi un calculateur qui permet d'évaluer l'épargne nécessaire pour atteindre un revenu de remplacement à la retraite, parmi des choix préétablis lorsqu'on ne bénéficie d'aucun fonds de pension. La petite machine se veut surtout instructive. Avec tous ces outils, en moins d'une demi-journée, vous aurez une vision plus claire de ce qui vous attend à la retraite. Pour entamer l'année 2026 avec confiance ou pas, c'était « Évaluer vos revenus de retraite en quelques clics », un texte de Daniel Germain paru le 17 décembre 2025 dans Le Soleil.
Un chef de guerre sans plan. Un texte de Yves Boisvert publié dans la presse du 10 mars 2026. 8 jours après les premiers bombardements en Iran, le président des États-Unis est toujours incapable de formuler clairement ses objectifs. Si on ne comprend pas les objectifs, difficile de prévoir la fin de la guerre. De notre côté, ça permet de déclarer la victoire n'importe quand. Cette confusion n'est peut-être donc pas seulement le fruit de l'improvisation, mais une tactique de communication du commandant en chef. On sent qu'il brûle d'envie de crier victoire à tout moment. Comme il n'en définit pas bien le contenu, libre à lui de choisir le moment. N'empêche, à quelques heures d'intervalle seulement, Donald Trump a déclaré que la guerre est « très complète, à peu près ». Les combats sont très en avance sur l'échéancier, a-t-il ajouté. Plus tard, il a déclaré « Nous avons gagné de plusieurs manières et nous allons de l'avant plus déterminés que jamais pour atteindre notre victoire ultime qui mettra fin à ce danger de longue date une fois pour toutes. » Quels sont les objectifs précis? Quelle est cette victoire ultime? Neutraliser les capacités militaires de l'Iran, sans doute. Parfois, il est question de changement de régime. Mais quand c'est le secrétaire à la Défense, Pig Exec, qui parle, cette hypothèse n'est pas sur la table. Il est ensuite question du programme nucléaire iranien censé avoir été annihilé par les frappes américaines de 2025. Ce n'était manifestement pas le cas. Preuve supplémentaire du faible degré de planification, le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20 % du pétrole mondial, est à peu près fermé à la circulation. C'était pourtant une des conséquences les plus prévisibles de cette guerre, avec la hausse des prix du pétrole. Réponse de Trump. Si l'Iran continue à entraver la circulation maritime, citation, nous allons les frapper si fort qu'il leur sera impossible ou à quiconque leur venant en aide de récupérer cette partie du monde. Fin de citation. J'écrivais la semaine dernière que le renversement de ce régime assassin, tortionnaire, commanditaire majeur du terrorisme, qui enrichit de l'uranium malgré les interdictions, est voué à la destruction d'Israël, est un objectif militaire légitime. Déjà, désarmer ce pays dangereux se justifie. Mais jusqu'où? Jusqu'à quand? J'écrivais aussi que je n'ai aucune confiance en la vision géopolitique de Donald Trump. Une semaine plus tard, ces justifications confuses, contradictoires, n'ont vraiment rien pour nous rassurer. La seule constance est l'affirmation de la force de frappe de l'armée américaine, de sa puissance militaire, citation, « comme le monde n'en a jamais vu », fin de citation. Tout en répétant que la guerre sera très courte, mais en admettant que ça peut durer longtemps, comme dit Hexek, car on ne sait jamais. Il donne l'impression de projeter une fin imminente du conflit uniquement pour calmer la spéculation sur le prix du pétrole. Peut-être, malgré ses démonstrations de force, le régime très contesté des Mollahs sera-t-il éventuellement renversé à la faveur des événements? Peut-être pas. Impossible de le prédire. Il se peut que le résultat final soit encore plus de souffrance. Mais ce qui saute aux yeux chaque jour un peu plus, c'est le degré d'impréparation de l'administration Trump pour autre chose que des frappes militaires dont on ne voit pas la fin. Dans le plan pour l'après-guerre, comme dans les tentatives d'alliance internationale pour l'avant-guerre, on est devant une page blanche. Fin de cette chronique de Yves Boisvert, titrée « Un chef de guerre sans plan », publié dans la presse du 10 mars 2026.